Et donc pendant la pause, nous avons pensé à réorganiser un peu cette fin de matinée. Donc finalement, il n'y aura qu'un exposé pour finir la matinée. On pourrait commencer un petit peu la réunion de pilotage, puisqu'il faut commencer après. Le déjeuner est prévu à 13h. Et on pourrait recommencer plus tôt l'après-midi. On était censé recommencer à 15h. Donc on reprendrait à 14h30 avec l'exposé de Pierre Marc. Alors maintenant, donc nous allons écouter Dagmar Stöfferle, que tout le monde connaît bien, puisqu'elle a commencé à, disons, elle a assuré le secrétariat de l'ANR les deux premières années, et à présent, elle a un beau projet de travail sur Flaubert et Manzoni. Mais donc maintenant, elle va nous parler de Flaubert et Sainte-Beuve. Nous l'écoutons.
Merci. Je vous ai distribué deux photocopies sur... Tout le monde en a. Il y a sur la chaise, il y en a des encore. Ouais. Il y en a encore beaucoup, plusieurs. Hein. Il n'en manque pas. Ouais. Donc sur l'une des feuilles, vous trouvez le plan et les citations de Flaubert et de Sainte-Beuve, et sur l'autre feuille, vous trouvez l'ensemble des notes de Flaubert pour ceux qui s'y intéressent. Donc Flaubert et Port-Royal, réprobation et fascination. Au début de mes recherches figuraient les notes de Flaubert sur le Port-Royal de Sainte-Beuve. 69 notes que Liana Nissim a publiées en 1981. Il s'agit de 69 notes se référant à 69 passages de la deuxième édition de l'ouvrage datant de 1859. Les notes flaubertiennes se répartissent plus ou moins régulièrement sur tout le texte. Il y a des pauses de 100 à 150 pages entre une note et l'autre, mais elles sont disposées de manière chronologique et se réfèrent très souvent non au texte principal de Sainte-Beuve, mais à une note, ce qui laisse supposer que Flaubert a lu le texte soigneusement et en entier. Dans sa présentation des notes, Liana Nissim a relevé qu'en lisant l'œuvre de Sainte-Beuve, Flaubert avait été particulièrement intéressé par certains faits excessifs, extravagants, des messieurs de Port-Royal, mais qu'en fin de compte, l'œuvre n'avait pas suscité un intérêt particulièrement poussé chez lui. J'aimerais bien souligner le contraire ici. Mis à part le fait qu'on ne lit pas 2500 pages si l'on n'y porte pas un intérêt particulier, Flaubert partage le point de vue adopté par Sainte-Beuve quand il analyse le fait de Port-Royal, c'est-à-dire celui de l'amateur des lettres. Port-Royal est, selon Sainte-Beuve, ce fonds religieux qui a promu la littérature française à des hauteurs encore jamais atteintes jusque-là. Il écrit « N'admirons-nous pas que sortent également de Port-Royal Racine et Pascal la perfection de la poésie française et la perfection de la prose ?» Flaubert, quant à lui, compte parmi ceux qui ne cessent de polir et de perfectionner leur manière d'écrire, leur style. Outre leur intérêt pour la littérature, Flaubert et Sainte-Beuve partagent une opinion ambiguë au sujet de Port-Royal. Vous connaissez vraisemblablement tous la lettre que Flaubert a écrite à Sainte-Beuve pour défendre son roman Salammbô, que Sainte-Beuve avait jugé trop violent, trop cruel. Je regarde des barbares tatoués comme étant moins anti-humains que des gens vivant en commun et qui s'appellent jusqu'à la mort monsieur. Et c'est précisément parce qu'ils sont très loin de moi que j'admire votre talent à me les faire comprendre. Car j'y crois à Port-Royal et je souhaite encore moins y vivre qu'à Carthage. Flaubert critique les messieurs de Port-Royal. Il éprouve même un profond dégoût pour leur style de vie. En même temps, il suffit de penser à la correspondance de Flaubert où il prend lui-même des allures de solitaire, de père de l'Église. En même temps, il admire l'attitude des Port-Royalistes, dont témoigne surtout la dernière note, 69, sur l'ouvrage de Sainte-Beuve. Et c'est sur la feuille des citations, la note 69. J'ai gardé, concernant les notes de Flaubert, j'ai gardé la numérotation originale de l'analysme. Donc, on y lit, jolie page de regret sur Port-Royal, si l'élément janséniste eût pris rang dans le tempérament moral de la société française, il y eut plus de fermeté, d'idées et un sens du droit qui lui manque. Ce qui est mentionné ici, c'est une certaine attitude de conviction et de croyance qui est considérée comme passée, comme perdue au XIXe siècle. Au temps de Flaubert et de Sainte-Beuve, époque qui a éliminé le religieux du domaine du public et du politique. En fait, si l'on compare le début du cours donné par Sainte-Beuve à Lausanne, c'était vers 1837, à la fin du grand ouvrage qui date de 1859, on remarque une contradiction analogue qui s'exprime sous forme de désillusion. Dans son discours prononcé dans l'Académie de Lausanne à l'ouverture du cours sur Port-Royal, et c'est en même temps la préface de l'ouvrage, il écrit assez pathétiquement que son histoire de Port-Royal cherchait à dégager la poésie de ses saints de Port-Royal. De cette idéalisation, il ne restait plus grand-chose à la fin de l'œuvre. Au lieu de trouver cette poésie, il a trouvé, et maintenant une expression de lui, la religion dans sa rigueur et le christianisme dans sa nudité. Une fermeté, une rigueur qui risque à tout moment de sombrer dans la terreur, tel me semble être le point central de Port-Royal, de même que de la lecture qu'en donne Flaubert. Deuxième point, Port-Royal, épopée et aussi un drame. Qu'est-ce que Port-Royal selon Sainte-Beuve? Il faut tout de suite dire qu'il s'agit d'un projet assez étrange. L'auteur n'écrit pas l'histoire du jansénisme, même s'il développe en détail les doctrines de Cornelius Jansen et l'histoire de leur condamnation. À strictement parler, Port-Royal est l'histoire d'un monastère, l'histoire d'une abbaye cistercienne qui vécut un renouveau sous la direction de Jacqueline-Marie Arnaud et qui sera détruite en 1708 sur les ordres de Louis XIV. Puisque Sainte-Beuve met l'accent sur l'esprit de l'abbaye et non sur l'histoire de l'institution, il s'agit pour lui d'une communauté surpassant celle des religieux qui habitent le cloître. L'auteur personnifie son sujet. Il compare Port-Royal à un personnage unique dont il écrit la biographie. Ailleurs, Sainte-Beuve parle du portrait de Port-Royal. Ce portrait est effectivement un portrait de groupe, se composant de religieux, solitaires, pénitents, directeurs, prêtres, maîtres et amis de Port-Royal. Une sorte de série de biographies d'hommes, pour la plupart, qui se regroupent autour d'un monastère de femmes. Mais avant tout, Sainte-Beuve présente cette histoire comme une épopée véritable, une histoire qui se déroula parallèlement à l'histoire de l'État. En racontant les origines, en partie légendaires, du cloître, Sainte-Beuve conclut « Port-Royal a donc eu sa page prophétique, son baptême mythologique aussi, il l'a eu comme Rome. » Et quand Jacqueline-Marie Arnaud, devenue coadjutrice en 1599, rompt avec son père en lui interdisant l'entrée du cloître, Sainte-Beuve compare cette glorieuse journée du guichet, date fondatrice du nouveau Port-Royal, à la journée des dupes, dont le cardinal Richelieu sortit vainqueur, devenant le précurseur de l'absolutisme monarchique. Sainte-Beuve invente le jansénisme du XVIIe siècle comme dernier courant spirituel dans l'histoire de la France à posséder une valeur publique et à représenter un trait constitutif de la société. Pour Sainte-Beuve, cette histoire positive du jansénisme se termine avec la destruction de Port-Royal. Le jansénisme des 18e et 19e siècle n'étant plus à ses yeux qu'une dépravation politique du mouvement religieux. cette cohabitation du religieux et du politique au XVIIe siècle, Sainte-Beuve la considère comme exceptionnelle. Et le XIXe siècle, se caractérisant par une dissociation des deux domaines, sans aucun doute comme un phénomène révolu. En ce qui concerne les raisons pour lesquelles Port-Royal est une épopée du passé, une épopée qui comprend un essor, un âge d'or et un déclin, les indications de Sainte-Beuve ne sont pas cohérentes. D'une part, il réfute les opinions selon lesquelles les jansénistes menaçaient la monarchie absolue. Selon lui, les Port-Royalistes n'étaient justement pas des politiques, mais de purs esprits spirituels. D'autre part, Sainte-Beuve parle de deux générations de Port-Royal, dont la deuxième, celle qui a succédé à la mort de Saint-Cyran, n'avait plus la pureté et le rigorisme de la première. Ce n'est pas par hasard que Pascal occupe la place centrale de Port-Royal en tant que figure théologique et philosophique et littéraire, donc figure de transition par excellence. Je cite, les provinciales ont créé les amis de Port-Royal, comme Madame de Sévigné par exemple, comme La Fontaine. Et dans une note, il continue, comme vous peut-être qui me lisez, comme moi peut-être qui écris. C'est le déclin, la transgression était donc inhérente au sein du mouvement même. Le jugement de Sainte-Beuve sur le sort de Port-Royal reste donc profondément ambigu. Rien d'étonnant à cela si l'on considère que le rôle politique du jansénisme reste un sujet controversé jusqu'à nos jours parmi les chercheurs. Mais si le portrait du critique littéraire a des dimensions épiques, c'est parce qu'il y voit les fondements non pas de l'État politique, mais d'une république littéraire qui s'adresse à un public au-delà de la croyance chrétienne. Avec Pascal, Sainte-Beuve voit triompher une morale des honnêtes gens, laquelle est inférieure à la morale chrétienne, mais supérieure à la fausse et odieuse méthode jésuitique, une morale qui représente le juste milieu. Il parle aussi d'un christianisme rationalisé, ou plutôt utilisé. Et Sainte-Beuve s'en prend violemment à ce juste milieu actuel de la société, qui ne survit à aucune crise grave. Ce qu'il décrit ici avec beaucoup d'amertume ressemble beaucoup à ce qu'on rencontre chez Flaubert sous le nom de bêtise et de haine de la bourgeoisie, la médiocrité. Ainsi, l'épopée de Port-Royal devient-elle un drame au sein duquel la religion se bat de sa position souveraine. Sainte-Beuve veut se faire l'avocat de cette souveraineté et malgré lui, la plaidoirie se transforme en accusation. La religion nue qu'il a trouvée à la fin de son ouvrage au lieu de la poésie qu'il recherchait porte la marque de l'horreur de la souveraineté. Attitude de croyance. Bien que Flaubert ne commente que rarement l'argumentation directe de Sainte-Beuve, on peut néanmoins constater un accord fondamental sur son approche du sujet. C'est pourquoi son commentaire du passage où Sainte-Beuve regrette la disparition de la croyance n'étant point. C'est la note 50 que vous avez sur la feuille. Ignorance où nous sommes du protestantisme, excellente page, on n'a plus la croyance, on a encore l'attitude catholique. On ne l'étudie pas, on le juge d'un mot et le plus souvent d'un mot de dédain et d'injure. C'est chose reçue et donc bon ton. Sainte-Beuve fait cette digression à l'occasion de la présentation des œuvres controversistes de Pierre Nicole. Selon lui, Nicole a introduit la méthode prescriptive vis-à-vis des adversaires de la foi, méthode avec laquelle il a nui à la vraie croyance que lui, bien sûr, avait encore. Qui parmi les Port-Royalistes a la croyance? Cette croyance pure, sans attitude, cette grandeur ou souveraineté, indépendance des hommes. Sainte-Beuve et Flaubert semblent être d'accord sur ce point. Saint-Cyran est la mère angélique de Saint-Jean, donc la fille d'Arnaud Andilly et la nièce de la grande mère angélique. C'est la note... Saint-Beuve, il dit Nul caractère dans notre sujet ne nous apparaît plus véritablement grand et plus royal qu'elle, la mère angélique de Saint-Jean, et elle et Saint-Cyran. C'est ce qu'il remarque lors de la description de son décès. Et Flaubert, un peu moins pathétiquement, et maintenant c'est la note 20, la grandeur a manqué à tous ces bons hommes, sauf à Saint-Cyran peut-être. Sur la mère angélique, on n'a pas de jugement général, mais un mot d'elle. C'est la note 45. Pour ne pas s'affaiblir dans les grandes afflictions, il ne faut point rabaisser les yeux qu'on a élevés sur les montagnes. La caractéristique principale de ces personnages de croyance réside dans leur autonomie et leur indépendance. Sainte Beuve développe ce caractère de la mère angélique lorsqu'elle fut forcée de signer le formulaire pour réfuter les saintes propositions de Jan Senius. À la fin, vainquir, c'est la citation numéro 1, à la fin, vainquir une foi aveugle, indépendante de toute expérience. Et la doctrine de la grâce, telle qu'elle s'exprime en cette circonstance, dans toute sa pureté, dans toute sa nudité, par la bouche et par la conduite de la mère angélique. En outre, Sainte-Beuve insiste sur la destitution d'appareils divins, comme les sacrements, les directeurs ou les confesseurs. Quant à Saint-Cyran, Sainte-Beuve met en valeur sa conception du sacerdoce. C'est cette conception du sacerdoce qui sépare Saint-Cyran du calvinisme, car selon Sainte-Beuve, il attribuait aux prêtres un plus grand pouvoir qu'aux souverains politiques. Et si je résume la note 2, l'un ne domine que sur les biens et sur les corps, donc le souverain politique, et l'autre domine sur les âmes, la différence du prêtre et du souverain politique. Le prêtre, selon Saint-Cyran, est roi, et plus que roi sur la terre, il est sacrificateur. Pour pouvoir exercer la prêtrise, il faut être doté d'une grâce particulière et très rare. Parmi les fonctions du prêtre, Saint-Cyran relève celle de la prédication. Il l'élève même au rang de l'Eucharistie. Sainte-Beuve cite Saint-Cyran, numéro 3, sur la feuille, « Car la prédication, dit-on, n'est pas moins un mystère terrible que l'Eucharistie, et elle me semble même beaucoup plus terrible, car c'est par elle qu'on engendre et qu'on ressuscite les âmes à Dieu, au lieu qu'on ne fait que les nourrir par l'Eucharistie, ou pour mieux dire, guérir. Et moi, j'aimerais mieux dire sans messe que faire une prédication, car c'est une solitude que l'autel, et la chair est une assemblée publique où le danger d'offenser le maître est plus grand. » Le prêtre imite Jésus-Christ dans l'Eucharistie, où il renouvelle son sacrifice, et il l'imite dans la prédication, où il interprète la signification de ce sacrifice. Ce sont donc deux choses qui ont pu fasciner les deux hommes de lettres, Sainte-Beuve et Flaubert. Premièrement, le pouvoir du prêtre sur les hommes, leur fonction de directeur, une fonction devenue éminemment politique au XIXe siècle. Et deuxièmement, la transmission de ce pouvoir à la prédication, à la parole. C'est donc un intérêt pour l'analyse du fonctionnement du pouvoir qui unit l'étude de Sainte-Beuve et la lecture qu'en donne Flaubert. Je reviendrai immédiatement sur le rôle de cette souveraineté chrétienne pour l'écriture de Flaubert. Avant, il convient toutefois de relever que l'ensemble des personnages qui habitent le port royal de Sainte-Beuve est arrangé sous la direction fondatrice de Saint-Cyran et de la mère angélique. Ces personnages, Sainte-Beuve les classifie selon leur rôle dans ce qu'il appelle à plusieurs reprises la famille de port royal. Il y a les prêtres, les solitaires, les pénitents, les confesseurs, donc il y a vraiment une classification. Et toute cette famille, sans aucun doute idéalisée, peut faire penser aux personnages des textes flaubertiens qui, eux, cherchent tous, en quelque sorte, une croyance, une sûreté, un réconfort. Et parfois, la ressemblance atteint des dimensions textuelles. Je vous donnerai trois exemples. Le premier, dans la biographie de Isaac, le maître de Sacy, Sainte-Beuve insiste sur les scrupules énormes que celui-ci éprouvait à la perspective de recevoir la consécration sacerdotale, parce qu'il était rempli d'une immense crainte du Seigneur. Et M. Sanglin, qui voulait qu'il succède au défunt directeur de Port-Royal, qui était un certain M. Manguelin, il dut le forcer en reprenant les mots de Jean-Baptiste. Il lui dit donc, en lui montrant M. Manguelin mort, c'est la citation 4, « Ilum oporte crescere me autem minui. » Il faut que celui-ci grandisse et que je me fasse. L'humble clerc, donc Sacy, n'eut plus de réponse et reçut la consécration avec une joie grave et tremblante. On pense ici, bien sûr, à la fin de Hérodias, où les relations de prédestination et de succession sont étrangement déformées, ce qui est d'ailleurs également le cas ici chez De Sacy, qui endosse après coup le rôle d'un Jean-Baptiste censé grandir son précurseur, Manguelin, en se diminuant comme prêtre et directeur. Ensuite, deuxième exemple, j'ai trouvé une référence bizarre au sujet d'un perroquet, dont je n'ai pas pu vérifier s'il est une source directe du perroquet de la félicité d'un cœur simple. Il s'agit d'une anecdote rapportée par Sainte-Beuve dans une note sur la biographie de Madame de Sablé, grande et extravagante amie de Port-Royal. Madame de Sablé hébergea quelque temps l'une des pensionnaires et novices de Port-Royal, une certaine sœur Catherine. Et maintenant, c'est la note numéro 5. Quand elle rentra au cloître, la sœur Angélique de Saint-Jean disait « Elle a été si longtemps à l'école de la tendresse qu'il lui en coûtera plus qu'une autre pour apprendre le langage de l'Évangile. » On lui permettait d'écrire de temps en temps des lettres à Madame de Sablé. On ne la mortifiait pas trop sur ses lettres, mais un jour qu'elle y parlait d'un perroquet qu'elle avait laissé, la sœur Angélique châtia ce passage qui confondait le saint avec le profane. Car la charité doit subsister toujours, mais le jeu n'est plus de saison. Flaubert ne cite malheureusement ni le passage en question, ni la citation de Jean-Baptiste. Mais par ailleurs, Sainte-Beuve explique la souveraineté dont la mère Angélique de Saint-Jean a témoigné pendant sa captivité comme celle d'un cœur simple. C'est un simple cœur chrétien qui devient, quand il est tenté, un simple cœur humain. Troisième exemple, c'est Monsieur Hamon, un solitaire auquel se réfèrent les notes 47 et 48 de Flaubert et qui laisse entrevoir le protagoniste de la tentation de Saint-Antoine. Je cite la note 47. Monsieur Hamon représente la sète orientale. Il se promenait sur un âne et avait ajusté à la selle un pupitre sur lequel il lisait des livres saints. D'ailleurs, il tricotait aussi sur l'âne. Sainte-Beuve l'appelle un des grands spirituels du XVIIe siècle. Il n'est pas prêtre, mais le médecin des religieuses de Port-Royal, médecin excentrique. Après qu'il eut pris ses degrés en médecine, il sentit un besoin spirituel. Il s'installa comme solitaire à Port-Royal des Champs et devint le médecin et directeur des religieuses. Sainte-Beuve parle de l'humble pénitent laïc, médecin et aussi médecin des âmes. Et il le nomme aussi directeur malgré lui. C'était le solitaire préféré de Racine qui, l'admirant beaucoup, voulait être enterré à ses pieds. Selon Sainte-Beuve, Hamon incarne la dialectique chrétienne en ce qu'il maîtrisait l'art de transformer l'apparence des choses. Le christianisme, ainsi entendu, n'est que la bonne magie, dit Sainte-Beuve. Monsieur Hamon est un mystique. Son trait marquant, d'après Sainte-Beuve, me semble résider dans l'appropriation d'une féminité qu'il identifiait à l'essence de Jésus-Christ et qu'il assuma en tant que laïc au lieu du sacerdoce. En le qualifiant d'oriental, Sainte-Beuve prend un peu ses distances avec ce personnage aux marges de l'orthodoxie chrétienne, ce personnage qui ne voulait pas seulement être le médecin physique des religieuses, mais qui voulait être lui-même guéris spirituellement par elle. Et dans ce contexte, Sainte-Beuve cite un passage de Hamon sur l'absence de prêtres. C'était à l'époque de la suppression de Port-Royal. Citation 7. Mes mères et mes sœurs me rendent les mêmes devoirs que me rendraient les prêtres de Jésus-Christ. Les épouses, dans une telle nécessité, supplient aux amis de l'époux, et on peut dire que s'il y a moins d'autorité, il n'y a pas moins de charité. Quand il s'agit de rendre les derniers devoirs à une personne qui se meurt, tous les fidèles deviennent ministres de Jésus-Christ. À cette fusion du sacerdoce et de la charité de l'homme et de la femme, se mettent aussi les autorités de Saint-Cyran et de la mère angélique, de Saint-Jean. L'oriental Hamon marque une frontière entre orthodoxie et hérésie, entre science et magie, ou théologie, et en dernier lieu, entre religion et littérature. Et en effet, Sainte-Beuve regrette l'écrivain perdu en lui. On se prend à regretter que M. Hamon n'ait nullement songé à être ce qu'on appelle un écrivain. Me voilà donc arrivé au dernier point, le rôle de la souveraineté chrétienne pour l'écriture de Flaubert. Le péché comme fiction, la fiction comme péché. Dans la typologie sociologique des rôles religieux développés par Sainte-Beuve, les relations maître-disciple sont essentielles. Hier, Jordan les a mises en évidence pour Bouvard et Pécuchet, et Mary Hall a aussi relevé l'importance de ces relations pour la tentation de Saint-Antoine. Antoine, qui n'est plus en mesure de représenter un modèle à suivre, est confronté aux autorités tentatrices de toutes couleurs, avec à leur tête Hilarion, et Hilarion, c'est l'ancien élève qui est devenu tentateur. Classifiant les confesseurs pénitents maîtres disciples de Port-Royal et de ces petites écoles, Sainte-Beuve introduit une distinction qui a évidemment convaincu Flaubert dans sa lecture. Il distingue les natures secondes des vrais directeurs. La nature seconde, par excellence, est représentée par Claude Lancelot, qui n'était pas prêtre, seulement sous-diacre, qui était le biographe de Saint-Cyran et qui instruisait les enfants dans les petites écoles. Et Sainte-Beuve généralise la nature de ces natures secondes. C'est la citation 8. Dans le monde, dans les divers ordres de talents et d'emplois, ces natures que j'ai appelées secondes existent et avec toutes sortes de délicatesses. Chacun en a pu rencontrer le long du chemin. Elles ont besoin de suivre et de s'attacher. Ce sont des Élysées en peine qui cherchent leur Élie et qui, sous lui, si elles le trouvent, dirigent les moindres. Flaubert a trouvé cette observation jolie. Dans une note aussi, la note 6, que j'ai pas mis. Non. Donc, c'est tout simplement, c'est jolie observation. Ou quelque chose comme ça. Oui. Et on devine facilement que cette distinction entre nature seconde et les premières trahit la conception du sujet chrétien dont la grandeur est toujours et déjà une grandeur seconde. Pour cela, il vaut mieux ne pas sonder trop profondément la hiérarchie établie dans Port-Royal, dont on a l'impression qu'elle s'écroule au moment même où Sainte-Beuve l'établit. Il semble qu'à l'intérieur de cette typologie chrétienne affichée, ce sont la cour et la ville qui transparaissent toujours. Le monarque souverain, l'honnête homme, le libertin, le poète, la précieuse, le galant, le poète, etc. Quand il parle des amis de Port-Royal, Racine par exemple, ou Madame de Sablé, on sent particulièrement cet équivoque, et la princesse de Longueville représente à cet égard l'exemple le plus pertinent. Sainte-Beuve lit le compte-rendu de ses conversations avec son directeur, M. Singlin, et en tire la conclusion que Madame de Longueville représentait le raffinement de la sèse. Il rapporte une citation d'elle qui, selon lui, révèle sa dévotion comme un amour propre inversé. Et maintenant, je résume la note 9. Je résume, Madame de Longueville a peur que toute son âme soit malade et que tout y vienne de l'orgueil, même aussi les parties apparemment saines, la docilité. Dans ses explorations raffinées de soi, Sainte-Beuve voit à l'œuvre la matière de la grâce. Flaubert y voit la religion comme moyen de considération et d'influence. C'est la note 54, donc la religion comme moyen de considération et d'influence. L'aspect inouï de l'exemple de Madame de Longueville est qu'il suggère que la croyance serait une fiction. Ce qui est perçu comme une croyance sincère peut toujours être un mensonge, un péché, une fiction. Autrement dit, les relations entre maître et disciple peuvent toujours changer. Il y a un autre endroit où le terme de fiction figure expressément pour désigner des fautes supposées ou plutôt présumées. Ce sont des fautes supposées pour lesquelles un supérieur d'un cloître, c'est Monsieur de Rancé qui a réformé le monastère de la Trappe et qui était fameux pour son rigorisme. Et donc ces fautes supposées pour lesquelles il humiliait les religieux. Et Sainte-Beuve cite comme exemple un religieux qui lit au réfectoire avec trop d'emphase, avec trop d'affection, trop de distinction, et qui est humilié pour cela devant tous. Flaubert en est choqué, comme l'indique la note 39. Humiliation, système disciplinaire de Rancé dans son couvent, il réprimandait les religieux pour des choses innocentes afin de les humilier. Il le déclare lui-même, cité pour leur salut, quoi de plus opposé à l'idée de justice. Néanmoins, je dirais que le protagoniste de la tentation de Saint-Antoine représente justement ce type d'ascète inhumain pour qui fiction et péché deviennent identiques. Pour Antoine, qui supporte toutes les attaques avec une résistance absolue, il n'y a aucune différence. Une différence réside cependant dans la distribution des rôles. Ce n'est pas un supérieur ou un directeur qui est responsable des humiliations d'Antoine croyant, mais un narrateur discret, un narrateur sceptique, voire tenté, je dirais, qui insinue que la tentation d'Antoine ne pourrait être qu'une fiction. Dans cette perspective, Antoine est une figure qui tente et qui provoque son narrateur, son créateur, en ce qu'il nie l'existence d'une fiction, une fiction au-delà des Écritures saintes. Le narrateur, de son côté, est un narrateur faible et doutant de son histoire, une histoire d'ascète fou. Ce narrateur est d'ailleurs tout le contraire de celui des romans flaubertiens, ou disons de celui que Flaubert conçoit ou affiche dans sa correspondance, à savoir ce narrateur fort, impersonnel, impassible, écrivant comme Dieu. Ce narrateur qui écrit un texte sans genre, mi-prose, mi-théâtre, cherche sa voie d'écrivain en se colletant avec la figure du croyant. Le croyant de celui... la figure de celui qui est chrétiennement souverain. Comparé aux autres personnages de Flaubert, à Emma, à Saint-Julien, à Félicité, Antoine est plus fort, plus croyant et crédible aussi. Il ne fait qu'exister, se taire et mettre en doute la possibilité d'une fiction sans croyance. Pour cette conception de la fiction comme péché, Flaubert a beaucoup appris du Port-Royal de Sainte-Beuve. Et en même temps, cette conception l'éloigne beaucoup de ce critique littéraire qui est aussi un directeur littéraire qui croyait, du moins au début, à un Port-Royal épique. J'ai fini, merci.
Merci beaucoup pour cette double assaise, je dirais, puisque vous avez respecté le temps et puis que vous avez lu les 2500 pages de Sainte-Beuve, ce que tout le monde ne fait pas. avec cette lecture croisée avec les notes de Flaubert. Et là-dessus, je pense que les généticiens auront des questions, des remarques à faire. Donc j'ouvre tout de suite la discussion. Pierre-Marc.
Oui, merci beaucoup. Bon, pour revenir sur ce que tu proposais à la fin comme question sur le narrateur, je me demande du coup si, à travers le Bon Voyage, évidemment impraticable par Flaubert et en même temps modélisé par Flaubert, bon, c'est une sorte de modèle, on ne pourrait pas imaginer que. Dans la Tentation de Saint-Antoine, le narrateur, la relation ambiguë que signalait entre le narrateur et la scène d'Antoine, ne relève pas de la stratégie d'écriture qui va prédominer dans Saint-Julien, qui est la stratégie d'écriture en partie double. C'est-à-dire, ce qui serait d'ailleurs, c'est probablement pour le lien entre nos recherches sur la religion et nos recherches sur l'image, une question sûrement importante, c'est-à-dire la capacité de l'écriture à tenir à la fois la possibilité d'un discours qui serait vérifiable en termes de transcendance et vérifiable en termes d'immanence. Simultanément, comme chez Julien, on a à la fois une histoire de saint et une histoire de fou, peut-être a-t-on, dès la Tentation, dans les années qui précèdent cette écriture de trois contes, cette recherche d'une sorte de registre en partie double qui permet aux croyants de lire la croyance, d'entrer dans la croyance, et aux non-croyants d'en voir la mise en procès. Et il me semble que dans l'intérêt que Flaubert porte à Royal, il y a quelque chose qui est un petit peu du même ordre.
Qui est un petit peu
du même ordre. Pascal comme une forme de pensée radicale, mais qui peut interpréter du côté de la folie, du côté d'une sorte de maximum presque pathologique de la pensée de la folie. Ou comme modèle même de l'engagement radical absolu du côté de la transcendance. En tout cas, le regard que ça peut porter sur la question était un petit peu de cet ordre-là.
Ouais. En tout cas, oui, c'est un champ énorme. Et j'ai voulu surtout montrer le statut paradoxe aphoritique du texte de la Tentation. C'est vraiment. Et là, on peut le, comme texte, en tant que texte, on peut le comparer peut-être à l'écriture pascalienne, je ne sais pas. C'est surtout une écriture sans « je », et qui s'impose à peu près les mêmes règles, je dirais. Et c'est un texte aux marges de la littérature. C'est pas, et je dirais, un laboratoire d'une écriture.
Oui, et enfin, juste pour finir là-dessus, l'intérêt de Flaubert pour Pascal et pour Royal est l'intérêt par rapport à une forme d'excès, mais qui n'est pas en cause une adhésion beaucoup plus forte pour lui dans le modèle de Montaigne du XVIe siècle. Je pense qu'il va avoir radicalement plus.
Sainte-Beuve, il est fait confronter, il en fait un duel. Pascal, c'est le duel avec Montaigne. Il le théâtralise. C'est le livre central de son Port-Royal. C'est fascinant. Et ce qui est aussi fascinant, c'est que Flaubert, il omet ça complètement dans ses notes. On a, donc, ça. Au début, je me suis dit, mais dis donc, ça ne l'intéresse pas, c'est le central de l'ouvrage, mais je crois que c'est plutôt l'inverse, c'est tellement intériorisé, donc c'est, là, il n'y a pas de. On n'a plus besoin de noter.
Helmut Pfeiffer voulait réagir sur ce point.
C'est un peu autre chose.
C'est un peu autre chose.
C'est notre 50 classique. Ignorance de ça, parmi le protestantisme, bien sûr, pour que la première partie, ça continue, on ne l'étudie pas ce que ça se réfère.
Le protestantisme, ouais.
Quel est le sens de cette page que Colbert trouve tellement important? Est-ce qu'il donne une suite à ce qu'il y a dans cette page? Parce qu'évidemment, ignorant que nous sommes du protestantisme, est-ce que ça se réfère, disons, à la théorie de l'écriture dans le protestantisme qui serait pour Flaubert?
Je dirais que. Je pense.
Est-ce que c'est seulement un aperçu sans donner le détail de ce qui l'intéresse?
Je pensais que ça se référait à la situation spéciale en France concernant le protestantisme, donc à l'histoire des religions, l'histoire des confessions.
Donc ça n'a rien à voir avec, disons, la théologie.
Au dernier lieu, si, mais c'est compliqué.
Parce que Flaubert semble regretter l'ignorance
oui.
de tout ça.
Oui, oui.
Donc, Françoise Gaillard voulait intervenir.
Oui, moi je ne connaissais pas cet intérêt non plus de Flaubert, et c'est donc extrêmement intéressant. La question que je me posais en écoutant était la suivante, elle est peut-être totalement absurde, mais est-ce qu'il n'y aurait pas dans cette espèce de religion de l'art qui va être celle de Flaubert par la suite, cette espèce d'ascèse qui va être la sienne, quelque chose qui serait de l'ordre du jansénisme? C'est-à-dire, non pas dans cette pratique religieuse qui va être celle de la dévotion à l'art, quelque chose qui serait beaucoup plus du côté du jansénisme que du côté évidemment du jésuitisme ou même du catholicisme. Je dis jansénisme allant jusqu'à la théorie, bien sûr, de la grâce. Il y aurait quelque chose de fondamentalement janséniste dans sa manière de vivre, sacrifier à l'art.
J'ai voulu être prudent en adoptant les...
Non, je pense que c'est une question comme ça. Je n'en sais rien.
Non.
Mais il y a peut-être quelque chose.
Moi, j'ai voulu être prudente en adoptant les notions à l'écriture à l'écriture de Flaubert, mais bien sûr on peut faire ça. Sinon il y a toujours le problème, qu'est-ce que le jansénisme? Flaubert note aussi dans son dictionnaire des idées reçues, on ne sait pas trop ce que c'est, mais très chic d'en parler. Mais en tout cas, c'est pas le Dieu caché. C'est plutôt le Fils. Avec Barbara Finken, on pourrait dire que c'est un style kénotique qu'il adopte.
C'est quand même une théorie du salut, une théorie de la grâce qui est l'intermédiaire entre le calvinisme, qui n'est pas exactement celui de Calvin.
Et pour moi,
et qui n'est surtout pas celle du catholicisme. Et je lui demandais si
c'est une question
de rapport à l'esthétique et pas quelque chose de simple.
Mais en tout cas, c'est la réponse au paradoxe de la définition de nature seconde ou nature primaire. Et c'est ce qui m'a fascinée dans ce problème-là, c'est le mélange de féminité et de masculinité, c'est le amont, l'oriental, c'est parfaitement le Antoine de la Tentation, à cet égard, j'ai trouvé intéressant cette évaluation des natures souveraines de Sainte-Beuve, donc les femmes d'une part, les hommes d'autre part, la prêtrise et la religieuse.
Donc Anne.
Oui, c'est sur un autre point. En contrepartie de ce que tu disais sur fiction et péché, donc du côté plutôt de la religion, dans le sottisier de Bouvard qui est prévu pour la copie, une rubrique Haine des romans. Et cette rubrique Haine des romans, elle est essentiellement prise à partir des notes sur les médecins qui considèrent que les romans sont pernicieux pour la santé mentale. Et on retrouve, on va voir évidemment, mais il y a ce contrepoint à la religion, c'est le contrepoint finalement physiologique des médecins, de la médecine du 19e. C'est juste une remarque.
Oui. Saint-Pop, le monsieur Hamon, il le décrit aussi comme physiologiste.
D'autres. Pas de... Si, Pierre-Marc.
Juste attendre avec Jean-François. Dans la passeport, il y a plusieurs reprises, des formules qui ressemblent beaucoup à cette affirmation, une sorte d'image pascalienne de l'engagement sacrificiel, ascétique dans l'écriture. Mais, dit Flaubert, pour autant que l'accouplement ascèse et esthétique soit possible. Or, il explique que là, il y a une contradiction qui fait que ça ne peut pas marcher jusqu'au bout. C'est l'ascétisme esthétique étant une voie religieuse, réellement religieuse, de dire en tant que telle, mais où là, si nous substituons à Dieu, à la transcendance, on voit quand même l'expérience de l'ascète à l'esthésie, c'est-à-dire à la sensibilité, au corps, à l'immanence. Voilà. En tout cas, ce qui ressort de même une tentation, c'est clair, une tentation de la radicalité pascalienne.
Je vous ai donné la citation sur ce perroquet, et là j'ai espéré que quelqu'un le sache. En fait j'ai discuté avec une personne française sur ce passage, et c'est pas très compréhensible le perroquet qu'elle a laissé. On ne comprend pas ce que...
Avec Madame Sabé.
Non, mais
c'est un animal
suspect. C'est super. C'est proche du
parapluie. C'est tout pour les
verges. Oui, mais... Oui, mais
Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on va suspendre cette matinée et peut-être amorcer donc la réunion de pilotage.